alors ?
Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Tcha tcha tcha.
Qu'est-ce qu'on a dit ? Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Oh, quelle galère, ce changement d'heure, moi j'en peux plus.
Mais en fait, il est quelle heure? J'ai toujours pas compris.
Bah, moi non plus, je n'ai pas compris. Comme s'il ne change pas l'heure de l'horloge du studio, bah, ouais. On ne sait pas non plus.
On est toutes mêlées. Compliqué en ce moment,
hein. Ouais.
Le rythme.
Ouais, ça, puis j'ai l'impression que les appareils électroniques aussi, je ne sais pas, tout ce qui est téléphone, communication, ordinateur.
Ça passe pas bien.
Non, ça ne marche pas très bien. C'est...
Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue dans la toute nouvelle émission Le Bar à Chat, l'émission faite par des femmes et pour des femmes, mais qui s'intéresse quand même aux hommes. Une émission sérieuse et déjantée, celle où on parle de tout sans complexe. Un rapide rappel du principe de cette émission. Vous, madame, et toi aussi, copine, venez prendre votre part du micro ici présent pour inonder les ondes de Radio Saint-Afrique de toutes les choses que vous avez envie de partager. Dans le bar à chat aujourd'hui, on y trouve Chaussette,
miaou.
Chamanta,
miaou.
Et Félix Potin, moi-même, pour vous guider dans ce nouvel épisode Intello Gaucho Coquino Barjo et Rigolo. Aujourd'hui, 1er avril, bonne fête à tous les poissons. Je vous signale d'entrée de jeu que peut-être ou pas se cache une farce dans cette émission, à vous de la trouver. Et pour nous mettre dans le bain, écoutons l'auberge du Chat-qui-pète des Blaireaux avec une spéciale dédicace aux ch'tis de la rue du Tropon.
À l'auberge du Chat-qui-pète, les compagnons de route m'avaient prévenu.
Ne t'arrête jamais quoi qu'il t'en coûte, parmi nous les plus hardis ont payé de leur tête. Pour avoir passé la nuit avec le chat qui pète.
À l'auberge du chat qui pète, emmenez-moi leur dis-je. Pour en avoir le cœur net, j'irai voir ce prodige. Ne craignez rien pour ma peau et rangez vos sornettes. Je vous ramènerai bientôt la queue du chat qui pète. Et si le sang vous entraîne un soir au bord de la Seine, qu'on vous achète d'une guinguette, ne cherchez plus car vous y êtes. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, celle qui m'ouvrit la porte était belle comme une pâquerette épanouie et accorte.
Vous êtes ici gauche et vous parole de Jeannette, mais toutefois gardez-vous d'ouvrir la chambre 7.
À l'auberge du chat qui pète, on dort sur des marquises qu'on bravait bien des tempêtes et mouillait leur chemise. On s'y chauffe au poil du chat, niché sous la couette, gonflé comme un flan alza, il digère ses croquettes. Et si le sang vous abandonne un soir au bord de la Garonne, qu'on a crevé votre estafette, ne cherchez plus car vous y êtes. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, les clients les moins chiches ont l'évier pour faire trempette et se brosser les ratiches. Et si l'aventure il se bouche,
ne craignez rien coquette, la nuit comptait sur une louche pour faire votre couette.
À l'auberge du chat qui pète, on apporte son assiette, il y a toujours quelques petites bêtes à se mettre sous la fourchette. Car quand le chat est trop là, les rats font des claquettes, improvise un opéra sur l'air du chat qui pète. Et si le sang vous dévalise un soir au bord de la Tamise, dépouillé par un pickpocket, ne cherchez plus car vous y êtes. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète. À l'auberge du chat qui pète, du chat qui pète.
Et le programme d'aujourd'hui, alors une chronique sur les sorcières, le pastafarisme, un petit coup de gueule sur la communication et être belle jusqu'à... jusqu'où, on vous dira jusqu'où plus tard. Alors, tout de suite, j'invite Chiamonta au micro. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des sorcières aujourd'hui. Et puis, et c'est aussi moi qui pousserai le petit coup de gueule sur la communication. Voilà, on verra tout à l'heure.
Fort d'à propos. Et maintenant, au tour de Chaussette. Bonjour Chaussette.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler du pastafarisme. Alors, je laisse le suspense, hein, savoir s'il s'agit d'une recette à base de pâtes et de pesto ou autre chose. Vous verrez bien, c'est la surprise.
On s'en lèche les moustaches. Alors, et ben moi, en ce qui me concerne, en toute fin d'émission, dans la rubrique Belle et Jolie, ben, je vous expliquerai tout sur les glitter pits.
Hey,
et pour ouvrir la marche, j'appelle notre première féline, Chiamonta.
Alors, les filles, si je vous dis sorcière, à quoi vous pensez ?
Au bûcher.
Oui, surtout aux flammes, aux plantes.
Au chat noir.
Ouais.
À la pierre qui coule et qui ne remonte pas.
Et au filtre d'amour.
Aussi, ouais.
Ah. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on retrouve souvent les mêmes représentations, en fait. Souvent, c'est une vieille femme avec une verrue sur le nez. Elle porte une robe noire. Elle fait bouillir une potion dans un chaudron en y ajoutant toutes sortes d'ingrédients peu appétissants d'ailleurs. Baffe de crapaud, pâte d'araignée. Elle est souvent accompagnée d'un animal noir, un chat ou un corbeau. Elle vit dans un lieu sombre. Elle se déplace la nuit à la lueur de la lune en volant sur un balai. Elle pratique la magie noire, fait des incantations, noue des pactes avec le diable. Parfois même, elle mange les enfants. Ses intentions sont maléfiques, elle veut faire du mal, jeter des sorts, empoisonner des gens ou les tuer.
Un peu de bave dans mon chaudron magique, beaucoup de betteraves, c'est vraiment maléfique. Chou chou chou,
chou chou chou,
chou chou chou,
chou chou chou.
Un chou à poux donne du goût à mon ragoût, pour mes copines un verre de jus de carpoix, les turlupines un véritable cauchemar.
Pourtant, il y a quelques siècles, c'était les sorcières qui se faisaient tuer, et en masse. Le temps des chasses aux sorcières a duré plus de 4 siècles, du 14e au 17e siècle. Ces campagnes de terreur ont été menées par l'Église et l'État, majoritairement contre la population féminine paysanne. La persécution a été lancée à grande échelle après la publication du Malleus Maleficarum, qu'on traduit par « Le marteau des sorcières ». Il a été écrit par les révérends dominicains Cramer et Sprenger en 1486. Cette enquête a été commanditée par l'Inquisition. Elle décrit les sorcières, leurs pratiques et les méthodes à suivre pour les reconnaître. Dans ce charmant bouquin, on pouvait lire notamment que « une femme qui pense seule, pense à mal ». Ce livre donnait aussi des instructions détaillées sur l'emploi de la torture pour obtenir des confessions forcées. Généralement, l'accusée était entièrement déshabillée. On lui rasait tout le corps. Puis, elle était soumise à des appareils lui broyant les membres ou les écartelant, à des clous dans le corps, à la privation de nourriture et au passage à tabac.
I'm the son of torture and daughter of demise. I'm the blood of hatred bleeding from your eyes. I'm the mother hellspawn and father Satan too. I'm the shadow reaper. It's coming after you.
De quel crime étaient accusées ces sorcières pour subir une répression aussi brutale ? Sous le terme sorcellerie, on les a accusées de nombreux péchés à travers les siècles. On retrouve cependant trois accusations principales. Premièrement, les sorcières étaient accusées de crimes sexuels contre les hommes. Toute leur sorcellerie viendrait de la passion charnelle. Ces femmes auraient pris du plaisir à copuler avec le diable et contamineraient les hommes. Elles étaient accusées de rendre les hommes impuissants, de provoquer la disparition du pénis et de changer les hommes en bêtes.
Ouais, ouais.
Deuxièmement, les sorcières étaient accusées de faire partie d'une organisation clandestine de paysannes. Elles se réuniraient dans des sabbats, des sortes d'assemblées générales, au cours desquelles elles auraient des rapports avec le diable sous la forme d'un bouc. Et troisièmement, les sorcières étaient accusées d'avoir des pouvoirs magiques. Elles pouvaient faire du mal, mais aussi guérir aider les femmes à la contraception et pratiquer des avortements.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Car oui, elle n'était pas seulement accusée de faire du mal, mais aussi et surtout d'aider et de soigner. Comment expliquer ça ? Alors, replaçons-nous dans le contexte. Les rois et les nobles avaient leurs médecins de cour, qui étaient des hommes. Mais les paysans, qui souffraient de pauvreté et de maladie, n'en avaient pas. C'était alors des femmes qui soignaient. Elles étaient avorteuses, infirmières et conseillères. Elles étaient pharmaciennes, cultivant les plantes médicinales et partageant les secrets de leurs utilisations. Elles étaient sages-femmes, se déplaçant de maison en maison et de village en village. Pendant des siècles, les femmes furent des médecins sans diplôme, interdites d'accès aux livres et aux cours, apprenant les unes des autres et se transmettant leurs expériences de voisine à voisine et de mère à fille. Elles étaient appelées « bonnes femmes » par le peuple, mais sorcières ou charlatans par les autorités. Pourquoi ? Parce que l'Église pouvait accepter une médecine masculine qu'elle contrôlait pour la classe dominante. Mais elle ne pouvait pas accepter une médecine féminine intégrée à la culture paysanne. Pour l'Église, l'offensive contre les guérisseuses paysannes était une offensive contre la magie et non contre la médecine. On croyait que le diable avait un réel pouvoir sur terre et que les paysannes l'utilisaient, que ce soit pour le mal ou pour le bien. Et ça effrayait l'Église et l'État. Car ces pouvoirs sataniques rendaient ces femmes autonomes, moins dépendantes de Dieu et de l'Église. Elles étaient potentiellement capables d'utiliser leur pouvoir contre l'ordre divin. Il y avait les remèdes divins, ceux des prêtres et des docteurs. Et il y avait les remèdes du diable, ceux des femmes paysannes. Car la bonne femme possédait une grande quantité de remèdes qui avaient été éprouvés au fil des années d'utilisation. Beaucoup étaient à base de plantes, des antalgiques, des anti-inflammatoires. Elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement, à une époque où l'Église proclamait que ces douleurs étaient le juste châtiment pour le péché originel d'Ève. Mais les méthodes de ces femmes étaient une menace aussi grande que leurs résultats, car elles se fiaient à l'empirisme, c'est-à-dire à leur sens, à leurs expérimentations, à ce qui ne marchait pas ou à ce qui marchait selon elles. Elles n'étaient pas passives, elles trouvaient des moyens de prendre en charge les souffrances et les maladies. L'Église, elle, était anti-empiriste. Il ne fallait pas chercher la vérité avec ses sens, mais se contenter de croire en Dieu.
Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
Le bilan de cette histoire, c'est entre 50 000 et 100 000 tués, des femmes vieilles, des jeunes et des enfants. Et aussi, il faut le noter, environ 15% d'hommes. Bref, un énorme gâchis. Par la suite, la profession médicale a été longtemps réservée aux hommes. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer à l'université, qui était le passage obligatoire pour devenir médecin. En France, il fallut attendre 1875 pour voir la première Française avoir le diplôme de docteur en médecine. Elle s'appelait Madeleine Bresse. Aujourd'hui encore, si les femmes prédominent dans le monde médical, elles occupent les emplois les moins valorisés. Infirmières, aides-soignantes, employées de bureau, femmes de ménage. On entend des discours racontant que cette place est naturelle, biologique, qu'une femme est par nature infirmière, mais pas médecin. Il est utile alors de nous rappeler l'histoire. Pendant des siècles, les femmes ont été les seules soignantes pour les femmes et les pauvres. L'élimination des femmes des métiers de la santé et l'accession au pouvoir des professionnels masculins n'ont pas été un processus naturel. Il y a eu une forte répression des femmes soignantes par l'Église et l'État. Pour en savoir plus sur cette longue période de l'histoire pourtant méconnue, je vous conseille la lecture de l'ouvrage « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes ». Il a été écrit par Barbara Ehrenreich et Deirdre English, écrivaine et militante féministe états-unienne. C'est une enquête sur les racines historiques de la professionnalisation du corps médical, parue en 1973 aux États-Unis et en 2015 en français, aux éditions Cambourakis.
appelle au secours quand il est malade. Je le guéris toujours de ses maux incroyables. Mon docteur ne va pas très bien. Quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine, des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. On peut même voir sa fille en photo. Il a besoin de parler tout ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il a sur le cœur. Il peut tout me dire. Il me parle de sa vie, il dit qu'il l'a raté. Mon docteur ne va pas très bien. Il prend dans sa main son stylo à encre. Il me dit c'est certain, demain je m'ouvre le ventre. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. Il a mis un costume à carreaux. Il a besoin de pleurer.
Vous venez d'écouter Mon docteur par la grande Sophie. Oui, 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 tu avais quelque chose d'important à nous raconter.
On se disait en aparté que c'était très bien ce billet-là sur les sorcières.
Absolument, sympa, hein. Absolument.
Moi, j'avais une petite anecdote là-dessus, à savoir l'image traditionnelle qu'on connaît sur les sorcières chevauchant leur balai. J'avais appris ça parce que j'adore la botanique et dans mon métier. Et notamment donc sur la belladone, la plante, la belladone, qui est une plante de la famille des pommes de terre et de la tomate, qui est assez toxique, qui a été longtemps utilisée par les femmes autrefois. Et notamment, par rapport aux sorcières, on disait qu'en fait, elles en enduisaient le bout d'un balai ou d'un manche pointu et qu'ensuite, elles se donnaient du plaisir avec. Et c'est de là que serait sorti l'imaginaire des sorcières chevauchant leur balai. Alors qu'en fait, parce que bon, c'est la belladone a une propriété en fait de dilater les muqueuses. C'est pour ça que les femmes aussi s'en mettaient sur les yeux pour avoir des grands yeux de biche et faire très...
Ça marche avec les pommes de terre ?
À tester. C'est peut-être moins nocif.
Moi, sur les sorcières, je voulais juste te signaler que... Tu sais, le début du ton papier, la sorcière avec la grosse verrue et tout ça, vraiment moche. Moi, la sorcière qui me faisait le plus peur quand j'étais petite, c'était celle de Blanche-Neige, c'est ça ? Elle est magnifique, elle est très belle, c'est une très belle femme, une très belle matrone. Oui. Et ben moi, elle me terrorisait. Et du coup, pendant très très longtemps, les belles femmes me faisaient vraiment très peur.
Mais de toute façon, ouais, on peut noter que sorcière, c'est super négatif pour quand ça concerne les femmes. Elles sont maléfiques, elles veulent manipuler et tout. Mais alors, quand il s'agit des hommes, les sorciers, 1, généralement, ça passe beaucoup mieux. Ils ont du pouvoir, ils sont puissants.
Il y a Gandalf qui fait des signes dans le studio.
Sinon, c'est Harry Potter.
Bien, et bien maintenant, au tour de chaussettes.
Oui, tout à fait. Ce petit billet du 1er avril, donc vous prendrez ce billet au sérieux ou pas. Vous voyez, vous faites votre choix. Donc, en ces temps troublés et obscurs, pour ceux qui veulent bien y focaliser toutes leurs attentions, j'ai le devoir de me sentir en perte de repère, spirituel notamment. En fait, athée, c'est désormais out. Alors, pour coller à la tendance, c'est décidé, je me trouve une religion à ma mesure. Passé toutes les plus connues, j'aurais pu choisir de me pencher vers les religions entretenant, il paraît, le corps et l'esprit, façon le jogging, la religion des bouffeurs de bitume, ou la pleine conscience, la religion qui t'éveille, si et seulement si tu fais tout ce qui est écrit dedans. Mais voilà, j'avais la flemme. Et de chausser mes baskets toutes neuves, jamais portées depuis que je les ai achetées, voilà 3 ans. Ou de me farcir l'intégrale de la section bien-être et développement personnel de la bibliothèque de Sainte-Afrique. J'ai hésité également sur la religion 5 fruits et légumes par jour, la religion soutenue par la Fédération des maraîchers et primeurs de France. Mais comme j'aime manger de saison et local, je me suis dit que 4 mois à bouffer des pommes et des poires, ça pourrait devenir usant, notamment pour mes intestins. Et voilà qu'une vieille réminiscence de jeunesse frappe à mon esprit, es-tu là ? Le pastafarisme se rappelle à moi. Et je ne résiste pas à l'idée de faire un peu de prosélytisme sur cette antenne afin de partager avec vous cette merveilleuse croyance qu'est la religion pastafarienne. Yes, allez. J'arrive pas à le dire, moi. Alors, rien à voir avec une quelconque secte des adorateurs de Pastabox, référence que peut-être seuls les étudiants et les célibataires débordés connaîtront, pardon. Ni bien sûr avec la musique reggae et les porteurs de dreadlocks. Le pastafarisme, Kézako, comme on dit en Aveyron. Le pastafarisme, c'est une religion officielle du monde entier dans toute la galaxie et l'intergalaxie, qui autorise n'importe qui à enseigner sa propre théorie sur l'origine de l'univers en classe de science. Même les créationnistes. Hélas, oui, tout n'est pas bon dans les religions. Le prophète Bobby Anderson eut la révélation que le créateur de toutes choses est le monstre de spaghetti volant, autrement appelé MSV, lorsqu'il fut touché par son appendice nouillesque. Pas trop savoir comment. Il sut ainsi que le MSV créa l'univers alors qu'il était bourré, suite à une ingestion massive de la bière produite par les volcans du paradis. Le MSV tenta par la suite de corriger certaines erreurs, mais se prit au jeu et continua de truquer la réalité rien que pour nous embêter. Il s'amuse ainsi à recouvrir les squelettes de dinosaures par des couches de terre pour nous faire croire qu'ils sont disparus depuis des millions d'années, alors que chacun sait que son arrière-grand-père en mangeait des steaks. Le MSV a une affection toute particulière pour les pirates. Pourquoi ? Le réchauffement climatique est d'ailleurs une conséquence directe de la diminution du nombre de pirates. Scoop. Comme le prophète Bobby Anderson l'a très clairement prouvé. Vous irez chercher. Il en résulte que le monde peut être sauvé en devenant un pirate pastafarien, arborant fièrement le pavillon du squelette de poisson. A noter que les adeptes du pastafarisme, qui seront de bons pirates, auront une probabilité non nulle d'être admis au paradis où, outre le volcan à bière susmentionné, se trouve une usine de stripteaseuses ou stripteaseurs, selon la préférence de chaque pastafarien. Et voilà, c'est pas patriarcal au moins, comme religion. Hein ? La divinité du pastafarisme, lorsqu'on prononce son vrai nom, il faut pas le dire, réduit instantanément le cerveau en pesto ou en salsa pomodoro. Le créateur de 3 fois rien sur pas grand-chose est invoqué par un nom aspiré de son apparence. À noter qu'écrire le nom de leur dieu avec un S à spaghetti est un blasphème mortel pour les pastafariens, pour 2 raisons aussi déraisonnables l'une que l'autre. Le mot italien spaghetti est déjà le pluriel de spaghetto. Et le pastafarisme est une religion profondément monothéiste. Si le monstre de spaghetti volant a décidé d'être constitué de plusieurs spaghettis, il fait comme il veut, c'est pas à nous pauvres mortels d'en rajouter. Ses plus grands adeptes se trouvent en Belgique et sur la planète Jupiter. Voilà pour un petit topo autour du pastafarisme. Maintenant, plus réellement, nous allons dire, il est vrai que cette religion a été inventée pour contrer les vilains créationnistes. Le pastafarisme est ainsi une parodie de religion, dont la divinité, le monstre spaghetti volant, a été créée par un étudiant de l'université d'État de l'Oregon, Bobby Anderson. En 2005, il écrit une lettre ouverte pour protester contre la décision du comité d'éducation de l'État du Kansas d'autoriser l'enseignement du dessin intelligent dans les cours de sciences, au même titre que la théorie de l'évolution. En gros, le créationnisme, quoi. Dans cette lettre, il professe sa foi en un dieu créateur surnaturel dont l'apparence serait celle d'un plat de spaghettis et de boulettes de viande et demande à ce que le pastafarisme reçoive une durée d'enseignement égale à celle du dessin intelligent et de la théorie de l'évolution. la lettre devient rapidement un phénomène internet. Les croyances pastafariennes sont présentées sur le site internet de Anderson, où il se décrit comme un prophète, et dans l'évangile du monstre en spaghetti volant. Cette parodie est utilisée par des pastafariens qui s'engagent dans des parodies de disputes religieuses afin de faire valoir leur point de vue. Alors voilà, j'espère que comme moi, le pastafarisme a éveillé votre curiosité et titillé vos neurones, et je souhaite vous compter prochainement parmi nos fidèles. Ramen.
Merci Chaussette, vous venez d'entendre « T'as le look coco » de La Roche-Valmont.
Oui, et d'ailleurs c'est une chanson spéciale dédicace à Riffo Mathieu, président de Radio Saint-Afrique. Il se reconnaîtra, vu que je l'ai cité.
Nous aussi on le reconnaît.
J'ai une question sur le pastafarisme.
Oui.
Est-ce qu'il existe des temples ou des églises où on peut se rendre pour prier ce dieu spaghetti?
Alors étant donné que c'est le dieu de l'univers, de l'extra-univers et de partout en fait... comme il est présent tout autour de nous, n'importe quel endroit se prête. Il n'y a pas de lieu dédié
ah,
à...
Mince, il est là alors.
Voilà, il est là autour de nous, il nous entrelace avec ses spaghettis. Ses spaghettis.
Est-ce que ce n'est pas mieux dans un restaurant italien quand même?
Ah, peut-être qu'on peut plus communier avec lui entre le parmesan et la panna cotta.
Si tu te fous des douilles sur la tête, peut-être que tu communiques plus facilement. En tous les cas, maintenant je sais pourquoi Bouddha se marre. Hein. Bon, bah maintenant, on va partir sur un petit coup de gueule hein, avec Samantha qui s'exprime sur la communication.
Je grogne. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Oh, rassurez-vous, un petit coup de gueule sur la communication. Ce mot nous vient du latin communicatio, qui veut dire mise en commun. Je t'en foutrais de la mise en commun.
Tout un programme.
Alors oui, en théorie, c'est ça. Je communique, tu communiques, elle, il ou on communique, nous communiquons, vous communiquez et elles ou ils communiquent. Mais en pratique, c'est une autre affaire. J'ai comme l'impression que la majorité des problèmes qui se posent dans un groupe sont liés à la communication. Pourtant, à notre époque, ça communique partout, tout le temps. La technologie aidant, on se téléphone, on se textote, on s'envoie des mails, on chatte, on se Skype, on fait une visioconférence, on se tweet sur Twitter ou on se poke sur Facebook. Parfois même, il arrive qu'on s'envoie du courrier, des cartes postales ou des lettres. Si, si, ça existe encore.
J'aime bien les cartes postales.
C'est à un tel point que c'en est même devenu un métier, celui de communicant. Incroyable ! Attaché de presse, chargé de com ou chef de pub, le communicant travaille dans le service de communication d'une entreprise, d'un ministère, d'une collectivité ou d'une agence. Son but est d'asseoir l'image ou d'accroître la notoriété d'une entreprise ou d'une institution. Ces professionnels de la com se sont imposés comme de véritables gestionnaires de l'opinion. Ça laisse songeur. Mais revenons à nos brebis. Nous voyons donc que la communication est à la mode, qu'on nous la sert à toutes les sauces, jusqu'au sommet de l'État. Alors, mais dites-moi, pourquoi, quand il s'agit de communiquer entre trois pélos pour fixer une date, un horaire et un contenu de réunion, ça devient si compliqué ?
Ça me rappelle une situation.
C'est complètement fortuit. Est-ce que trop de moyens de communication nuiraient à la communication ? Est-ce que tout ça serait devenu trop complexe au point de ne plus savoir comment communiquer ? Est-ce que je leur envoie un texto ? Est-ce que je les appelle ? Est-ce que je leur envoie un email ? Est-ce qu'on fait une discussion instantanée à plusieurs sur Facebook ? Bon allez, j'envoie un mail. Ah zut, l'heure tourne. L'ont-elles bien reçu ? Je vais vérifier en envoyant un texto pour prévenir que j'ai envoyé un mail. Ah là là, mais le temps passe. Bon, je leur téléphone. Allô Julie, tu as bien reçu mon texto et mon mail ? Ah oui, c'est vrai, c'était ta boîte professionnelle. Je me suis trompée. Ah attends, j'ai reçu un SMS. C'est Mélanie. Elle dit qu'elle a répondu au mail. Je regarde. Ah oui, son mail est là. Tu ne l'as pas reçu, toi ? Ah ben oui, elle n'a pas fait répondre à tous. Donc tu n'es pas en copie. Attends, je te transfère son mail. À quelle adresse mail, du coup ? Bon, de toute façon, je crois que le plus simple, c'est de faire un doodle pour caler la réunion. Ah, qu'il était doux le temps où l'essentiel de la communication se faisait de vive voix, en face à face, non ? Mais ce n'était pas gagné non plus, car comme l'a dit le poète... Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que vous avez envie d'entendre,
ce que vous croyez entendre,
ce que vous entendez,
ce que vous avez envie de comprendre,
ce que vous croyez comprendre,
et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même.
If you want communication, use a telephone. When you entertain the nation, it's a microphone. Dictation can be made on a dictaphone. That's communication. Da di da di da da di da. Da di da di da da di da. Da di da di da da di da. That's communication. You can send a wire by telegram, also get the news by teletype. Now we look in Mars through a telescope. That's communication. Da-di-da-di-da-da-di-da. 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 That's communication. Western Union telegram, cablegram too. Television, radiogram, bring a message through. Pony Express and airmail, a shortwave. When you send this way, how much time you save? Da di da di da da di da. Da di da di da da di da. Da di da di da da di da. That's communication. Thank you.
union, telegram, cablegram too. Television, radiogram, bang a message to you. Pony Express, air mail, shortwave. When you send this way, how much time you save? Da-di, da-di, da-da-di-da. Da-di, da-di, da-da-di-da. Da-di, da-di, da-da-di-da. That's communication.
Communication de Slim Gaillard. Merci beaucoup. Vous avez envie qu'on échange sur la communication?
Qu'est-ce que tu dis?
Vous êtes sur le répondeur de Charmanta.
J'avais envoyé un pigeon pourtant, je ne comprends pas.
C'est pas ce qui manque ici.
Ouais, il s'est fait miaou, choper par un chat.
Par un chat, sûrement. Je l'ai mangé, désolée.
Bien, et eh bien, maintenant je vous propose d'enchaîner sur notre maintenant célèbre rubrique Belle et jolie.
Mais surtout belle
et très très jolie.
Ah, jolie.
Le soleil a ses rayons
que la raison ignore,
qui rend fou les petits garçons, les papas, les pépés, les arrière-grands-papis sur leur lit de mort. Car si toutes les filles sont jolies à la lueur d'une bougie,
c'est pas toi, c'est de sa chaviterie.
Encore lui, oh non.
Eh oui.
Quand le soleil les révèle, elles sont encore plus belles. Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles? Où sont-elles?
Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles? On y va.
Y perlent-elles comme les marmottes?
Où se cachent-elles à la grande motte?
Cela reste un mystère. Cela reste un mystère. Si certaines plus téméraires n'attendent pas les premiers bourgeons pour sortir de leur tanière, mais sans les mamans, les mamies, les nénés des mamans pondre au balcon. La plupart attendent fin avril pour ne pas s'enrhumer le nombril.
C'est pas toi, c'est carré, chérie.
André Bourdin, Philippe Laville, Talon Achille.
Pour les voir en jupavélo,
c'est pas Jack Antil,
non, c'est Bernardino Di Lambrero.
Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles? Où sont-elles?
Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles en hiver? Y perlent-elles comme les marottes?
Où se cachent-elles à Mayotte?
Cela reste un mystère. Cela reste un
savoir comment ont disparu nos amis les mammouths.
Ah oui, 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 oui.
Il paraît que les mamans mammouths,
par un étrange excès de pudeur,
gardaient leur fourrure, même en août.
Même en août, mais pourquoi?
Elles boudaient les bodys complexes et débordaient en débardeur.
Ah, voilà, c'est ça, c'est
du coup, elles disparurent sous effet de serre, au milieu de l'ère quaternaire.
C'est pas toi, c'est dans le dictionnaire.
D'où ce vieux proverbe, éléphant jusqu'à 100 ans. Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles? Où sont-elles?
Toutes ces beautés qu'on voit l'été,
où sont-elles en hiver? Y perlent-elles comme les marmottes?
Où se cachent-elles dans des grottes?
Cela reste un mystère. Cela reste un mystère.
Glitter Pits, littéralement paillettes creux. De quoi s'agit-il? Vous avez une idée? Paillettes creux, ça vous évoque quoi? Pailleté le creux? Oui, mais lequel? Eh bien, celui du dessous des bras, j'ai nommé l'aisselle. Jusque-là, les différents dilemmes qu'on pouvait avoir étaient combattre la transpiration et enlever les poils ou pas. Un nouvel horizon de séduction s'ouvre à nos aisselles, le maquillage. Oui, aujourd'hui, nous pouvons, nous voulons décorer nos aisselles.
Waouh!
J'ai des échantillons.
Ah, c'est vrai. Bon, atelier juste après.
Alors, remontons à la genèse de cette révolutionnaire information. D'où vient cette molle? De quoi s'agit-il vraiment? D'après un magazine web sur la beauté, en mai 2011, 93% des femmes américaines trouvent leurs aisselles hideuses. Donc, dans cet article, on nous donne 4 conseils efficients pour avoir de belles aisselles impeccables. Je passe les gommages, épilations et applications de rondelles de citron.
Ouf.
Pour arriver à un cosmétique enrichi en mica, un minéral nacré, à la singularité de flouter les défauts. Ah bon, nos sous-bras aussi ont des défauts. Eh ben, nous ne sommes pas prêtes d'être parfaites. Eh bien, c'est justement de ça qu'il s'agit, le didacte des canons de beauté. Nous voilà rendus en 2014. Dans un autre article, on nous explique que des tas de femmes échangent via les réseaux sociaux leur désarroi face au combat qu'elles mènent sans cesse contre leur pilosité. Une jeune youtubeuse ne supporte plus de devoir s'épiler parce que c'est une norme. Elle est en colère, la minette. Comment régler ce problème récurrent de poils sous les bras? Eh bien, les y laisser. Voilà une bonne chose de décider. Pour appuyer sa liberté retrouvée, elle décide de se teindre les poils des aisselles. Cette revendication justifiée fait des émules un peu partout outre-Atlantique et donne lieu à des tutos « se teindre les aisselles ». Après tout, s'ils restent accrochés là, ils peuvent bien se parer un peu. Pour info, il faut les laisser pousser, les décolorer, puis les teindre avec les mêmes précautions que pour toutes les teintures.
Et le blotox, ça marcherait?
Comme des cheveux, quoi.
Ma mère m'a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux ». Je lui ai dit « Ma mère, dans 20 ans, si tu veux ».
L'hiver passe sans que les aisselles ne fassent trop de bruit. En même temps, c'est la saison où elles se cachent. Puis, en mai 2015, les Vlas qui reviennent sur le devant de la scène avec la styliste des cheveux américaine Roxy Hunt et sa déclaration « Attention, retiens son souffle !» Je rencontre de plus en plus de femmes qui choisissent sans vergogne de ne pas succomber aux injonctions de la société qui veut qu'on utilise un rasoir sur leur douce peau. Son but étant, je cite, « de célébrer les poils des aisselles ». Alors, si je comprends bien, pour revendiquer la liberté de garder ses poils, on les teint pour les célébrer. Et donc, du coup, on succombe à un autre diktat de la beauté, les cosmétiques.
Les bras m'en tombent.
Attends, garde-les pour tout à l'heure, il y a encore mieux.
Calmons-nous, restons calmes, ne nous fâchons pas.
Il y a quelques années, les Américaines scandalisées accusaient la Frenchie Catherine Ringer d'Erita Mitsuko d'afficher la toison de ses aisselles. Pourtant, d'après écologielibidinal.org, oui, je ne l'invente pas, il existe, nous en avons vu bien d'autres, comme celle de Patti Smith, Nina Hagen, Madonna ou Anita du groupe ABBA. Ou encore au cinéma, celle de Laetitia Casta, Victoria Abril, Sophia Loren, Penelope Cruz, Léa Massari et même celle de la reine américaine du glamour, Julia Roberts, en 1999 à la présentation du film Coup de foudre à Notting Hill. Julia répond au magazine Elle qui s'interroge. J'ai fait un effort, je me suis épilé les jambes.
belle gueule de jour.
Comme dit le mouvement pour un parti matriarcal, c'est dur à dire, hein, la résistance s'organise avec un événement annuel, l'été sans épilation. Dans aisselles.canalblog.com, on nous explique que la MPAA, commission de censure américaine, interdit dès les débuts du cinéma fin 19e de montrer des aisselles poilues parce que ces poils étaient assimilés aux poils pubiens. Il paraît même que les sportives des pays de l'Est ne se sont pas épilées jusqu'en 1992.
Et en politique?
Et en politique, j'attendais la question avec impatience. Eh bien, le site nomme Claudie Aigneret et Angela Merkel. Moi, c'est la mâchoire qui m'en tombe. Je ne me doutais pas que les tant de gens étaient intéressés par les aisselles des autres.
À poil, tout le monde à poil. Les petits, les grands, les bons, les méchants.
C'est en décembre de l'année dernière que nous allions vivre un dernier rebondissement avec la campagne pour l'égalité des sexes du photographe canadien Matthew Burditt, où apparaissent des aisselles poilues et pailletées. Mais en même temps, Chrissy Hall, photographe australienne, a posté sur son compte Instagram le cliché d'une mannequin aux aisselles touffues et recouverte de petites étoiles. Comme quoi, nous sommes bien liés, la preuve, quand quelqu'un a une bonne idée quelque part sur la planète, ailleurs, quelqu'un l'a aussi.
Formidable. C'est grâce au monstre spaghetti volant.
Oh, sûrement, oui. Ouais. Les spaghettis sous les aisselles, je n'avais pas pensé. Voilà, vous savez tout. Au nom de l'égalité des sexes et de celle de ne pas succomber aux injonctions de la mode, dorénavant, nos aisselles se parent de paillettes, de petites étoiles étincelantes, de strass et autres pompons décoratifs que l'on pique sur les verres à cocktail pour se les accrocher sous les bras. Ainsi sont nés les Glitter Pits. Et tout ça en pleine tourmente politique au sujet des essais nucléaires nord-coréens. Après tout, le dérèglement climatique avec un bon déo. Bien sûr, tout cela s'accompagne de différents conseils. Par exemple, pour celles qui voudraient savoir comment décorer leurs aisselles, eh bien, il faut impérativement avoir du poil au bras. Un déo super puissant et une couche de laque à cheveux qui sert à coller les paillettes. Que les esthéticiennes se rassurent, si vos clientes ne viendront plus se faire épiler les dessous de bras, les férues de cosmétiques viendront se les faire teindre et décorer. J'imagine que ça ne doit pas être simple de se les accrocher toutes seules. Du coup, les hommes paillettent leur barbe et les jeunes filles leurs sourcils et les tutos fleurissent. Mmh. Ouf ! Ça, c'est du marketing au service de la liberté. À moins que ça ne soit l'inverse.
Belle, belle, belle gueule de jour.
Alors bon, il y a des variantes. Exemple, les Rainbow Pits. Quelqu'un a une idée ?
Arc-en-ciel.
Oui, c'est des teintures. Des teintures arc-en-ciel sous les bras. À quand les slogans sociaux sous les bras ? C'est pas les causes qui manquent. L'aisselle au service d'une noble cause. En attendant, les militantes des poils aux bras veulent faire ce qu'elles veulent avec leur corps et elles ont bien raison. Reste plus qu'à envisager de passer nos soirées festives les bras en l'air.
La 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 la
voilà, nous venons d'écouter C'est comme ça, des Rita Mitsouko pendant la chanson. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges sur les paillettes. Vous avez des choses à dire?
Oui, moi, je voulais dire que c'est pas du tout de l'égalité. Pourquoi nous, on doit mettre des paillettes pour accepter qu'on ait des poils sous les bras et les mecs, non? C'est où, ça, où c'est égalitaire, ce truc?
Il faut que ce soit joli, girly, paillettes, strass.
Ouais, c'est un peu, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais tu sais, pour éviter de transpirer, on met aussi des serviettes hygiéniques sous les bras. J'adore ta tête.
Et pour arrêter un saignement nez, un Tampax dans la narine, ça marche nickel aussi. Hein,
ma fille, elle faisait ça quand elle était toute petite et qu'elle tombait sur ma boîte de Tampax.
Voilà, comme quoi.
Non mais ça doit gratter sérieusement, ce truc-là. Les paillettes et tout ça, les strass sous les bras.
Ouais, ouais. Puis c'est surtout de se demander comment on se trimballe avec, quoi. Donc tu marches un peu à la Stallone, quoi.
Oui, c'est ça.
En levant
avec
les bras.
Bah, t'as vu toutes les. Enfin, je sais pas, je les ai montrées tout à l'heure, toutes les photos que j'ai trouvées. En fait, les meufs, elles passent la soirée vraiment les mains sur la tête, quoi.
T'as totalement l'air d'une gourdasse, quoi.
Ah, bah ouais. Oui. Pour éviter de se raser les poils, en fait, on a l'air d'une cruche. Ouais.
Et les moments le moment de les enlever, ça doit être assez sympa.
Oui, les petits parapluies, des verres à cocktail, ouais, ça doit être sympa. Bon, bah, comme disait Brigitte Bardot, hein, pour en revenir à nos moutons et, ou à nos chats, les chats et les chiens, c'est un cœur avec du poil autour. Ça, c'était la blague d'aujourd'hui. Alors que toutes ces choses rigolotes ne nous fassent pas perdre de vue celles qui sont importantes, ne laissons pas retomber le soufflet des manifs contre la remise en question des droits du travail. Voilà, mes petites chattes, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute.
Chaleureusement.
Chaque nouvelle émission est diffusée le premier vendredi du mois à 22h et rediffusée le mardi suivant à 11h et le jeudi à 16h. Sinon, vous pouvez l'écouter en podcast, bien sûr, sur le site de Radio Sainte-Afrique. Et pour participer à l'enregistrement, eh ben, prenez contact avec la radio.
Et on remercie Gandalf.
Oui, merci à Phil,
merci
notre
Phil.
Fidèle et patient technicien, très très patient, Philou, sans qui rien Philou. Ne se ferait. Merci à vous, mesdames.
Très très gentil.
Merci à vous, monsieur.
Merci à toi, madame.
Et joyeux printemps à toutes et à tous. Ciao.
Et vive le pastafarisme.
Miaou. Miaou.
Alors,
miaou,
miaou, miaou, miaou, miaou.
Le bar à
miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Sainte-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Sainte-Afrique.
Miaou.
Cha cha cha.
Le bar à chat. L'émission chat heureuse
de Radio Sainte-Afrique.